Bonjour Joël Dicker.
Bonsoir.
Vous aviez un mot à dire ?
Oui, je disais bonsoir, on n'entendait rien. Bonsoir à tous. Merci. Merci d'être là. Et je disais que je suis particulièrement ému parce qu'il y a 2 ans, je devais être avec vous et vous avec moi. On devait être ensemble ici. Mais vous étiez enfermé chez vous et moi chez moi. Et je crois qu'on mesure la chance de pouvoir se retrouver maintenant sans se poser trop de questions et d'avoir cette liberté de se retrouver ensemble. Voilà. Faites attention quand même, ne vous crachez pas dans les yeux, mais en dehors de ça, on peut se retrouver enfin. Merci d'être là.
Et on est très content de vous recevoir, vraisemblablement, à Bordeaux. Vous êtes avec nous pour nous présenter l'affaire Alaska Sanders, qui est aux éditions Rosie et Wolf. Alors, on va faire une petite entrée en matière quand même, parce que ça, c'est un changement important. Et vous l'aviez un peu annoncé, préparé avec votre dernier roman, quand vous avez dit au revoir à Bernard de Fallois. Moi, la question que je me suis posée quand même sur ce livre-là, pour cette nouvelle édition qui maintenant est la vôtre, c'est la forme. Je voudrais faire une petite entrée en matière sur la forme de ce livre. Vous avez travaillé la forme de votre livre, puisque c'est votre maison d'édition. Et il y a 2 choses qui m'ont frappée. Il y a Edouard Hooper en couverture, et à l'intérieur, la présentation de vos chapitres est une présentation comme la presse.
C'est vrai, ouais, j'ai pas pensé à ça.
Vous n'avez pas pensé à ça ?
Non. Non, mais c'est ça qui est... Vous voyez, le livre, quand il est lu, ben, il ne m'appartient plus. Et ce qui me plaît, c'est... Et j'aime pas mettre en rapport ce que j'ai pu imaginer avec ce qu'un lecteur a imaginé, parce que ce que vous avez imaginé est à vous. Et je pense que personne, ni moi ni personne, peut venir vous dire si vous avez raison ou tort, parce que justement, toute la beauté de l'exercice, toute la beauté de la littérature, c'est qu'il y aura autant de livres que de lecteurs. Et que vous avez vu, vous avez imaginé, vous avez ressenti les émotions, vu les personnages, vécu les lieux et les scènes, comme vous avez voulu qu'elles soient, ou comme votre imaginaire vous les a dictées. Votre imaginaire, il fait ce que vous êtes, parce qu'il est constitué de vos souvenirs, de votre expérience de vie, de votre culture, des livres que vous avez lus. Et donc j'aime bien l'idée de... Moi, j'aime bien la rencontre, justement, de pouvoir entendre, sans avoir envie de le valider ou de l'invalider, mais d'entendre que vous, ça vous évoque la présentation de la presse, avec les colonnes au-dessus et le titre qui vient en dessous. Et Hooper, oui, ça, c'était la continuité importante pour moi après Harry Kéber, que cette continuité, ce livre 2, soit aussi illustré par Hooper, et que du coup, le tome 3, qui est le livre des Baltimore, que vous connaissez peut-être déjà, qui est paru lui il y a en 2015, la couverture aussi, on l'a remplacée pour mettre un tableau de Hooper.
Alors, donc du coup, bah, on a 2 questions, 2 pistes différentes. Alors que moi, ça m'évoque la presse, c'est pas extrêmement étonnant, quelque part. Mais quand même, cette mise en page, pourquoi ?
Ben, je sais pas. Et c'est difficile de justifier une idée, de justifier pourquoi et d'où ça vient.
Mais instinctivement, il fallait une sorte d'en-tête, un gros titre, et après, on rentre dans l'histoire ?
Non, j'avais l'impression, qu'en commençant, donc pour ceux qui n'ont pas encore lu, on ne gâche pas le suspense, mais on vous explique, la numérotation du chapitre et le titre du chapitre vient après quelques lignes du chapitre en lui-même. Donc, d'avoir le titre et puis le chapitre qui commence, vous avez le début du chapitre sur quelques lignes et puis les informations sur le chapitre. Et moi, j'avais l'impression tout d'un coup, mais c'est un peu une lubie, hein, pendant l'écriture, de me dire, ben, si on se passe du chapitrage, et qu'on a un élément de chapitre qui est quand même un marqueur temporel important, mais si on ne le met pas tout de suite, mais qu'on le met un peu après, ça permet vraiment de ne pas casser la continuité. Et c'était une question de continuité. Et après, c'était un essai dont je me suis dit, bon, je tente, et puis je vais voir ce que les relecteurs en disent, et si on comprend, si on ne comprend pas, si, voilà, quel est l'effet. Peut-être que il y a des gens qui m'auraient dit, si on m'avait dit, oh là là, on ne comprend rien, ça complique tout, il ne faut surtout pas le faire. Peut-être que je ne l'aurais pas fait. Et comme les relecteurs ont plutôt aimé, je me suis dit, ben, je vais le laisser comme ça. Mais donc, c'est pour dire que ça tenait à pas grand-chose et à pas beaucoup plus que cette conviction ou ce sentiment de me dire, ben, c'est plus fluide.
Alors, Edouard Hooper n'est pas sans évoquer une forme de nostalgie qui, à mon sens, revient aussi dans certains de vos personnages. Et ce n'est pas la première fois, puisque, effectivement, on va revenir sur le fait que ce livre est lié au précédent. Alaska, Marcus, même un peu Perry. Il y a quelque chose d'un peu nostalgique dans vos personnages, comme dans les tableaux d'Edward Hopper.
Nostalgique, si vous voulez, moi je préférerais, je dirais, le temps qui passe, ou le temps qui a passé, ou le temps qui va passer. Et cette idée, qui est un peu aussi un des éléments du livre, où le personnage de Marcus se rend compte que le temps passe et qu'on ne peut pas le rattraper. Pardon, c'est un peu bête, hein, mais... Et peut-être que c'est parce que... et on me demande s'il y a du Marcus en moi, et oui et non, comme dans tous les personnages, il y a forcément un peu de moi, en même temps, ce n'est pas ma propre vie. Mais peut-être que ce qu'il y a le plus de moi dans Marcus, dans ce livre-là, c'est que c'est un Marcus qui se rend compte que le temps passe et que ça nous oblige à prendre nos responsabilités, ça nous oblige à faire des choix, et ça nous oblige à accepter une partie... en partie la vie qu'on a, ils vont pas toujours changer. Moi, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses dans la vie. J'aurais voulu être pilote, policier, pompier, écrivain, avocat, que sais-je. Et je me rends compte aujourd'hui que je pourrais pas tout faire et que je dois l'accepter et que je dois accepter de vivre pleinement la vie qui est la mienne, sans essayer d'imaginer ou de me projeter ou d'essayer quand même de gratter un peu par-ci. Voilà pourquoi, parce que peut-être que plus vous faites et plus vous imaginez pouvoir faire, plus ça vous met dans une position de combat contre la vie. C'est-à-dire que la vie, ben, on sait, elle est limitée, on est limité dans le temps. On ne sait pas combien de temps il nous reste, mais on sait qu'on a un temps qui est limité. Et peut-être que de vouloir faire beaucoup, d'avoir beaucoup de choix dans la vie, c'est une façon de combattre ce temps qui est limité. C'est une façon de combattre cet arrêt qui nous attend, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans 30 ans, mais qui viendra. Et Marcus se pose cette question beaucoup, parce qu'il se dit, dans le livre, sans déflorer trop, hein, mais souvent il se dit, mais et qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait ça? Et si j'avais fait ça? Et si j'étais resté avec cette fille? Et si, au lieu d'être écrivain, j'avais fait ça et ça? Et je crois que c'est pas une façon de regretter ou d'avoir une nostalgie en se disant, ah, c'était mieux avant, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée de se dire, et si j'avais pu vivre plusieurs vies?
Edward Hopper, pour vous, ça raconte ça?
Ouais, Edward Hopper, ça raconte vraiment ce moment passé. D'ailleurs, j'ai envie de dire le pauvre dans le sens, c'est quand même un artiste absolument génial qui a un toucher, qui a une virtuosité dans son travail de la toile, de la peinture, qui est assez unique. Il a un jeu de couleurs. Cette toile, par exemple, qui s'appelle Gaz, qui illustre ce livre. C'est une toile, si vous voyez, qui est absolument géniale. Vous avez un jeu de lumière, les lumières de la station essence. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, il y a les lumières de la station essence qui apparaissent sur le bitume, et puis il y a les lumières du ciel, et puis tout ça se mélange. Il y a un jeu de couleurs et de lumières qui est absolument incroyable. Et je trouve que quand on regarde ce tableau, en fait, on ne regarde même pas ça. Ça nous passe au travers parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait ce petit bonhomme tout seul? Qu'est-ce qui s'est passé à la station service? Et c'est ce que ça évoque, c'est que je trouve que chez Hopper, on oublie parfois de regarder le tableau. Et si vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Il ne va pas vous dire, ben, je vois une station essence, ou je vois dans nos tableaux, je sais pas, une église, une maison, un paysage. Il va vous dire ce qu'on ne voit pas, mais ce que lui voit. Il dit, ben, il s'est passé quelque chose. Quelqu'un est parti, ou quelqu'un... Il y a une scène, on voit une scène. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un peintre qui, malgré toute sa virtuosité et tout son génie et tout son talent, il ne vous fait pas une démonstration, alors qu'il le fait si on voulait vraiment le voir. On s'arrête en disant, mais en fait, c'est incroyable. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il vous met pas dans une, il ne vous soumet pas à un rapport de domination entre guillemets où il dit regardez ce que je sais faire. Il vous emmène avec lui et il vous emmène dans une espèce de voyage incroyable en vous disant mais qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que ça évoque chez vous, quelle est la stimulation. Et c'est pas un peintre de la contemplation. Pour ceux qui ont eu la chance de voir son exposition qui a pas mal tourné en Europe, on n'est pas dans une exposition qu'on contemple et on admire. En tout cas, je trouve, on est vraiment dans un moment où on carbure, on imagine, on a vraiment le cerveau qui travaille.
Vous avez parlé du temps, vous avez un rapport au temps singulier, Joël Dicker, puisque dans vos livres, quand même, on réouvre des enquêtes longtemps après. C'est quoi votre rapport au temps?
Ben, on n'échappe pas au temps. On aimerait bien pouvoir y échapper, c'est-à-dire, je vous parlais avant des plusieurs vies, et je pense, en tout cas je parle pour moi, hein, j'ai le sentiment qu'on aimerait parfois pouvoir recommencer à zéro dans des choses qu'on a ratées, des choses qu'on a mal faites, des choses qu'on n'a pas faites. Mais ça ne peut pas se faire, parce que la vie est une ligne qui se continue, qui se succède, des étapes de la vie se succèdent les unes après les autres, et il faut accepter ce qu'on a fait, ou ce qu'on n'a pas fait, ou qui on est. Et il faut arriver à vivre avec soi. Et c'est un peu tout le parcours de ces personnages où... C'est pour ça que... Est-ce que c'est un polar ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a, un meurtre, il y a une enquête, et à la fin du livre, je vous rassure, on sait qui a fait quoi. Mais au fond, c'est pas le motif principal du livre. C'est pas le vrai intérêt du livre. C'est évidemment un fil rouge, c'est évidemment probablement quelque chose qui ajoute un côté de suspense qui donne envie de lire, et c'est important aussi. Mais le vrai fil rouge, le vrai lien entre tous ces personnages et toutes ces intrigues dans le livre, c'est vraiment des gens qui doivent accepter ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, qui doivent s'accepter eux-mêmes et arriver à vivre avec eux-mêmes. Et je crois que c'est la grande difficulté qu'on a, être capable de vivre avec nous, seul à seul avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est très occupé sur Instagram et sur les réseaux à attendre que les autres veuillent bien nous liker, nous aimer. On n'est pas sûr de nous. C'est pour ça qu'on fait des photos, on n'en fait pas une, on en fait 4 ou 10. Et puis on regarde quelle est la meilleure et puis on change un peu les couleurs. C'est dur d'être soi-même, c'est dur de vivre avec soi, c'est dur d'assumer d'être qui on est, encore plus dans un temps où non seulement on attend la validation de soi par les autres, mais en plus, on est constamment en train de regarder la représentation extraordinaire des vies des autres, qui vont mettre des photos d'eux absolument incroyables, ils sont en vacances dans des lieux incroyables, ils vivent en famille, des choses absolument incroyables. Moi, j'ai l'impression d'être un bon ami. Si je devais donner une qualité qui me semble être une des miennes, c'est de me dire, bah, je suis un bon ami, je suis un ami fidèle. Et puis voilà que je vois sur Instagram, parce que je suis dessus aussi, hein, je vois des gens, pour l'anniversaire de leurs amis, qui mettent des photos d'eux en disant « Mon meilleur ami, bon anniversaire, tu es extraordinaire, le meilleur des meilleurs des meilleurs des amis. » Et une photo, et 3 photos, et 10 photos, et des photomontages. Et je me dis mais quel ami nul je suis. Moi, je fais jamais ça. Moi, quand un ami a son anniversaire, je l'appelle, je dis bon anniversaire, j'espère que ça va bien, tu veux boire une bière ? Et non, les autres, ils font... Et je me sens... voilà, donc j'imagine que si moi, ça me fait ça, ou à n'importe qui, hein, mais je veux dire, c'est un sentiment que j'ai aussi, de se dire à quel point on n'en fait jamais assez. Et donc, vivre avec soi, tout ça pour dire que vivre avec soi, c'est pas facile.
Et vos personnages, donc, ils mettent du temps, ils mettent plusieurs années avant d'être prêts à pouvoir affronter l'enquête, parce que ça leur a pris du temps de savoir qui ils sont et comment ils vont aborder le sujet.
Oui, encore, c'est accéléré, hein, parce que dans le livre, on n'a que 600 pages pour raconter tout ça. Ça peut prendre une vie entière, vous imaginez, je vous ai pas dit. Mais ça peut être le travail d'une vie, ça peut être le travail d'une vie entière, d'arriver à accepter qui on est. Arriver à vivre avec soi.
Donc c'est la raison pour laquelle il rouvre des enquêtes. C'est la raison. 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard.
Moi, je crois que ce que j'aime bien dans l'idée, ou ce que j'utilise un peu dans l'idée d'une, j'aime pas l'idée d'un truc ou d'une astuce parce que c'est pas ça, mais ce que j'aime bien dans l'idée où qu'on retrouve ici aussi une petite ville et un meurtre, c'est que en fait c'est une bonne base pour créer un cataclysme, quelque chose de très fort, un big bang qui secoue tout le monde. Et c'est quelque chose qui est, je crois, immédiatement compréhensible par tous. Parce qu'on a tous, dans la vie, on a tous eu des histoires de famille ou des histoires de vie qui sont, pour nous, difficiles à accepter ou choquantes pour nous, ou etc. Mais peut-être pas pour tout le monde, parce que quand vous l'expliquez ou quand vous le racontez, tout le monde ne comprend pas. Alors que si vous dites, ben, c'est une petite ville, déjà, on s'identifie parce qu'une petite ville, tout le monde se connaît, et il y a eu un meurtre, bon, ben, là, on est d'accord, tout le monde, on dit, oulala, un meurtre, c'est quand même grave. Donc on est d'accord, on a un postulat de base qui nous accorde tous assez vite et assez bien, qui permet de passer à l'étape suivante, qui est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais l'idée du livre, de ce livre ou du livre en général, c'est pouvoir raconter tout ça en un espace-temps assez limité de 600 pages, mais qu'on pourrait appliquer de nouveau à une vie entière.
Alors, c'est pas le seul point qu'on retrouve hein, dans votre écriture. Il y a aussi ce duo, évidemment, d'un écrivain et d'un flic. Pourquoi ce duo?
Ben je pense que ça me permet de faire une enquête très, très terre à terre, très artisanale, parce que vous avez le flic qui donne quand même la légitimité de l'enquête. Donc c'est une enquête de police, c'est officiel, et il y a une partie très légitime. Et puis il y a Marcus qui n'est pas un flic. Donc lui, il n'est pas là, il ne fait pas cette enquête parce qu'il est payé ou parce qu'il a prêté serment. Il est là parce qu'il y croit. Et que les deux ensemble, ça fait un équilibre aussi entre un peu de technique policière quand même, et puis pas trop, parce que la technique policière, surtout aujourd'hui, qui est extraordinaire, c'est dingue, ils font du bornage, ils savent que vous êtes passé à tel endroit à telle heure, et que vous étiez là et pas là, mais en même temps, c'est pas très... Pour un roman, c'est un peu plat. Et pour un roman, on a envie de vivre avec ces personnages et de vibrer avec eux, et qu'il n'y a rien de mieux qu'une scène où pour récupérer des informations, le personnage... crée une diversion, rentre dans la pièce, vite, 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 le cœur battant, ouvre des tiroirs, trouve la feuille, la photocopie, la remet en place, s'en va à temps, juste avant que le garde n'arrive. Enfin, vous voyez, il y a une scène. Si maintenant vous êtes à côté et vous hackez le réseau Wi-Fi de l'endroit, puis que vous introduisez dans le téléphone portable d'une des personnes qui est ici pour lui extraire ses données, c'est impressionnant, mais c'est un peu nul pour un roman. Vous voyez, il manque quelque chose. Et donc j'aime bien ce duo parce qu'il permet de faire ça. Il permet de rester encore dans quelque chose de très artisanal et de romanesque.
Est-ce qu'il vous sert aussi à avoir des dialogues entre les personnages qui sont incroyablement calmes sur tous vos livres? C'est-à-dire qu'en fait, même quand il y a eu une scène plus violente, plus virulente, à un moment donné ou à un autre, bon, on s'explique et on se parle calmement. C'est Marcus qui apporte ça?
Je sais pas, c'est une bonne remarque. Marcus, il est assez calme, c'est vrai. Ouais, il s'énerve pas.
Là, il vous ressemble.
Ouais, c'est vrai. Non, oui, mais moi, je suis quand même un partisan de l'explication, parce que en général, c'est quand même beaucoup plus clair que l'énervement. Mais c'est dur de rester calme aussi, des fois. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est quelque chose que je n'avais pas manqué, mais c'est vrai que c'est assez calme. Je prends note pour le prochain livre.
C'est une famille. Et la famille, à votre façon, Joël Dicker, on la retrouve dans vos livres. Elle est très importante, de deux façons. La première, il y a toujours dans vos livres la famille accueillante. Cet écrivain, à un moment donné, il vient se ressourcer dans des familles. Pas forcément que la sienne, d'ailleurs, mais dans des familles. Perry, c'est un peu sa famille aussi. La tradition, les rituels, le moment où on est à table en famille, les enfants, les parents. Ça, c'est indispensable. Et là, on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer que vos personnages constituent une famille, puisque on voit bien dans ce livre-là, vous évoquez l'affaire Kébert, Baltimore, vous évoquez vos autres livres. C'est une famille, vos personnages?
Oui, c'est une famille parce que ce sont des amis. Et que, vous voyez, je fais le lien entre famille et amis. Il y a la famille, on a peut-être eu le tort de penser ou de mélanger famille et lien de sang. Parce qu'il y a la famille qu'on ne choisit pas, qui sont nos parents, nos frères et sœurs, notre noyau nucléaire, et qui sont des gens qu'on aime, évidemment, ou qu'on aime plus ou moins, ça dépend des histoires de vie, mais ça n'enlève rien à l'amour qu'on peut leur porter, de dire que la famille, c'est quand même celle qu'on se choisit. Parce qu'au bout d'un moment, surtout quand on grandit et qu'on a d'autres envies, on a d'autres idées que ses parents ou que son entourage, sa famille... On a d'autres opinions, on a d'autres idées, on a d'autres envies, on a envie de s'émanciper de ça. Qui mieux que nous-mêmes peut le savoir? Qui mieux que nous-mêmes peut savoir? On parlait avant de se connaître soi. On sait quand même avec qui on se sent bien, avec qui on se sent mieux, et quels sont les gens qui nous font du bien. Et on a le droit, on n'est pas obligé, et parfois ça peut être sa famille de sang, mais on a aussi le droit de se dire, tiens, il y a des gens avec qui je me sens particulièrement bien, et qui sont des gens qui me permettent de m'épanouir, de grandir, d'être quelqu'un de meilleur. Et ça, c'est la famille aussi. Et donc, moi, j'attache une grande importance. Et je m'entends très bien avec mes parents et ma famille nucléaire et de sang, etc. J'ai pas du tout de problème de ce côté-là. Mais j'ai pas du tout de soucis non plus à considérer comme famille. Et j'ai pas un conflit de fidélité, conflit de loyauté, en considérant d'autres gens qui sont pas une famille de sang, de les considérer comme une famille. Vous savez, les Américains, ils ont quand même ce truc, avec tous les défauts qu'ils ont, ils ont quand même cette qualité dans leur représentation, c'est que les gens très proches, ils les appellent les oncles et les tantes. Et donc les gens qui sont pas des membres de la famille, mais qui sont des amis très proches, sont présentés aux enfants de la famille comme oncle machin ou tante machine. Et ça, je trouve que ça donne une bonne idée de cette famille qu'on a grandi, qu'on a élargie. Et moi, j'aime bien l'idée que les personnages soient une forme de famille, c'est-à-dire qu'en tout cas, entre eux et peut-être avec moi, indirectement, il y ait ce lien, il y ait cette attache. Après, je fais la part des choses où ce ne sont pas des gens qui existent vraiment, ce ne sont que dans les livres et de mes personnages. Et donc, je ne m'en remets pas à eux le soir quand je rentre chez moi en leur servant un verre en disant « Tiens, Marcus, comment ça va ?» Mais j'aime l'idée que vous évoquez de cette famille qu'on choisit et qu'on a grandi au fil du temps et des rencontres.
Alors ça vous viendrait de vos années aux États-Unis ? Ce lien, cette façon de voir la famille, elle vous viendrait du temps que vous avez passé?
Non, parce que c'est pas, c'est pas du tout américain, tout le monde fait ça. Hein.
Oui.
Mais ce que je dis, c'est que c'est quelque chose de très accepté aux États-Unis. Vous allez dire, là, je te présente à Oncle John, et Oncle John n'est pas le frère de votre père. Oncle John n'a rien à voir, c'est un copain de longue date de vos parents, mais il est considéré Oncle John parce que ça permet d'identifier ce rapport de proximité. Donc ce que je veux dire, c'est que en anglais, en tout cas, ou pour les Américains, on a complètement accepté l'idée que la famille est quelque chose de très large, qui englobe des gens qui ne sont pas forcément de votre arbre généalogique, mais qui sont des gens qui sont aussi importants dans ce qu'ils représentent dans votre vie que votre frère ou votre oncle ou les parents.
Et alors, le fait que vos livres soient d'une certaine façon très proches du scénario, c'est-à-dire que c'est à la fois vraiment du roman dans lequel on est happé, et en même temps, on imagine très très bien tous vos livres filmés. Ça vous vient d'où? Des cours Florent, d'une passion de cinéma? D'où est-ce que ça vous vient?
Non, je crois que ça vient de ma lecture, de mes lectures. Ça vient de ma façon de lire. Moi, j'ai toujours zappé les descriptions. Quand dans un livre, il y a un roman, on décrit, alors si c'est quelques mots, ça va, je veux bien le faire, mais dès qu'il y a une ou plusieurs lignes de description des personnages ou des lieux, je zappe, ça m'intéresse pas. Et surtout, ça, je trouve que ça regarde personne de savoir comment je me les imagine. C'est pas à l'auteur de me dire comment est ce personnage, sauf si vraiment c'est très important pour l'intrigue, mais moi ça m'agace. Et j'aimerais vraiment, enfin c'est ce que j'essaie de faire quand j'écris, c'est j'aimerais vraiment dire à mon lecteur à quel point il a lui-même un rôle crucial, à quel point il joue un rôle dans l'existence de l'histoire. À quel point il est celui qui va décider de la scène, du rythme déjà, parce que vous pouvez, il y a des gens qui lisent un livre en quelques soirs, en quelques nuits, en deux nuits ou peut-être en un mois, et c'est vous qui décidez, c'est vous qui donnez le rythme, ce que rien d'autre ne peut, parce que le cinéma, bah, c'est un rythme qui est imposé, une série c'est un rythme qui est imposé, vous pouvez regarder oui tous les épisodes à la suite si vous voulez, mais un épisode c'est quand même x minutes et x minutes c'est 60 secondes fois le nombre de minutes, donc Vous êtes coincé dans un rythme qu'on vous impose. Alors que dans un livre, vous décidez du rythme. Vous décidez des personnages, vous décidez des décors, vous décidez de l'action, vous décidez aussi de ce sur quoi vous mettez un accent particulier ou pas. Ce qu'on fait au fond un peu au cinéma sans s'en rendre compte vraiment, parce que le cinéma, il y a tout ce qui est très évident. Et c'est pareil, parce que quand je vous raconte une histoire et que vous l'imaginez, si je vous raconte... un couple rentre chez lui, ouvre la porte et un chien les accueille, pardon. Vous avez imaginé tout ça. Vous avez imaginé le couple qui rentre chez lui, qui ouvre la porte, et un chien qui arrive et qui tourne en rond. Et pour leur dire bonjour, pour ceux qui ont un chien, vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne suis pas venu vous dire si le couple, c'était un homme et un homme, une femme et une femme, un homme et une femme, si le couple, il avait 20 ans ou 30 ans ou 50 ans. Puis le chien, c'était un gros chien ou un petit chien? Est-ce qu'il était jaune ou est-ce qu'il était noir, avec des poils longs ou des poils courts? Et puis c'était la nuit ou c'était le matin? Et puis ils rentrent chez eux, ils sont dans une maison, dans un appartement. Mais vous avez vu tout ça. Et je vous raconte cette scène parce qu'au cinéma, c'est exactement pareil. Au cinéma, on ne va pas mettre... Ce qui est évident, vous le voyez, parce que c'est immédiat. Les acteurs sont habillés d'une façon... La maison ou l'appartement est là, ils ouvrent la porte. Donc tout ça existe et vous vous arrêtez même pas. Vous allez vous arrêter sur les comportements. Pourquoi ils font ce qu'ils font? Sur qui sont ces gens? Et on fait ça pour le roman aussi. Dans le roman, on est là pour mettre l'accent vraiment sur les explications, sur la narration, sur qui sont ces personnages, pourquoi ils sont comme ils sont, pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais tout le reste appartient au lecteur, comme au cinéma.
Il y a un autre point qu'on retrouve dans votre écriture, Joël Dicker, c'est que... il est quand même question de la jeunesse volée, la jeunesse interrompue en plein vol. Les victimes, pardon, mm-hmm. dans vos livres sont jeunes, sont pleines d'espoir, avec tout d'un coup des démarrages de vie qui augurent d'un avenir très riche et qui sont arrêtés net. Pourquoi?
Parce qu'il faut les protéger. Non, évidemment, on aimerait mieux que ce soit quelqu'un qui soit arrêté net à 98 ans après une belle vie et qui part serein.
Ça pourrait. Mais chez vous.
Non, mais je crois que l'idée aussi, c'est le rappel de ce que c'est. C'est le rappel d'une jeunesse qu'on protège, à qui on doit faire très attention. Moi, je trouve que ce qui a changé quand même, et sans faire... j'ai mon âge, hein, je ne fais pas le vieux radoteur, etc. Mais ce qui moi me choque beaucoup, c'est que quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, qu'on allait à l'école, eh ben, on se faisait emmerder en classe ou dans la cour de récré, comme à tout le monde. Ça fait, pour certains, quand c'est pas trop grave, ça fait partie des expériences un peu de la vie. Et puis on rentrait chez nous, on quittait l'école, on rentrait à la maison, on était en sécurité. Et aujourd'hui, on n'est plus en sécurité, parce que quand vos enfants rentrent chez vous, vous pouvez être dans le salon et eux dans la chambre à côté ou au-dessus, et ils se font harceler par Internet, dans des groupes, agressés par Instagram ou du cyberharcèlement. Et on a perdu cette capacité à protéger nos plus jeunes. On l'a tellement perdu qu'on est, et on en parlait avant, on en est aujourd'hui dans des situations très compliquées avec des écrans sur des plus jeunes, qu'on ne devrait pas faire. On devrait les protéger. On ne devrait pas donner à des enfants de 1 ou 2 ans des écrans tout le temps. C'est pas bon pour eux. Si on vous mettait maintenant, si vous étiez au resto et que vous voulez avoir la paix, ou vous buvez un café dans un café et que vous voulez avoir la paix parce que, et puis que votre fils il fait du bruit, votre fils de 2 ans, si vous lui donniez une clope ou un verre de cognac pour qu'il se calme, ça vous choquerait. Alors pourquoi vous lui mettez un écran ? C'est pas moins dangereux. Et je trouve qu'on a perdu ce rapport à notre responsabilité. Je ne suis pas du tout en train de faire un laïus pour dire vous occupez de mal de vos enfants. J'ai des enfants et je sais que c'est difficile. Je sais que l'écran, c'est hyper tentant, c'est magique. Je veux dire, et pourquoi pas, hein, quand vous êtes dans un moment de détresse, vous n'en pouvez plus et ça fait, vous avez envie de jeter votre enfant par la fenêtre tellement il vous agace. Mettez-lui un Disney quelques minutes, ça le calmera et allez fumer une clope, c'est très bien. C'est pas ça que je vous dis. Je vous parle d'avoir oublié notre devoir de responsabilité pour nous-mêmes, pour les plus jeunes, et de s'en accommoder en disant bon bah c'est pas grave, c'est comme ça. Et on se réveille un peu, tout d'un coup, on se rend compte que la démocratie c'est pas si évident. Hein. On se rend compte que quand l'Ukraine, qui est un pays où le président était démocratiquement élu, est envahi par un autre pays dont le président n'a pas été vraiment démocratiquement élu, on se rend compte que la démocratie, c'est vraiment un régime très faible, en fait. Et que la démocratie, elle ne dépend pas de vos gouvernants. Et on est tous très occupés à passer nos journées à se plaindre de nos gouvernants qui ont pas fait ci, qui n'ont pas fait ça. Si ça ne va pas, c'est la faute des gouvernants. Peut-être un peu, mais en même temps, la démocratie, si elle tient debout, c'est parce que vous allez voter. Donc dès le moment où vous décidez de ne pas voter, dès le moment où vous décidez de renoncer à votre responsabilité en disant bah, « je ne vais pas voter parce que je m'en fous, parce que c'est tous des cons, parce que je n'y crois pas, ou bien je vais voter n'importe comment juste pour montrer que je peux faire ce que je veux », c'est vous que vous punissez. C'est vos voisins, c'est votre famille, c'est vos enfants. C'est la démocratie que vous attaquez. Quand vous faites ça, vous crachez au visage de tous ceux qui sont morts en 45 pour que vous soyez libres aujourd'hui. Et je trouve, quand je vois ça, c'est là où je dis on n'est pas responsable. On n'est pas parfait, et on ne peut pas être parfait, ni vous ni moi, hein, et on fait des choses parfois qui sont... Voilà, on fait ce qu'on peut, et on est comme on est, et on n'y peut rien. Mais je trouve que quand on ne prend pas ses responsabilités, c'est quand même grave.
C'est aussi pour cette raison qu'il y a Harry Kéber qui a ce rapport avec Marcus Goldman, c'est-à-dire une sorte de transmission, de paternalisme au sens bienveillant.
Mais... Marcus Goldman et Harry Kéber, on peut les voir, et l'histoire elle le présente comme ça, on peut les voir comme deux personnages qui ont ce rapport, effectivement, comme vous dites, où Harry est un peu ce rappel à Marcus et qui lui permet peut-être de se construire. On peut le voir comme ça, mais on pourrait aussi le voir comme un personnage, comme deux côtés qu'on a tous d'une personne où l'une est peut-être plus papillonnante, plus légère, qui a moins envie de se responsabiliser. Et l'autre est ce côté, justement, plus responsable, plus droit, qui lui dit « Mais attention, on ne fait pas ça comme ça, discipline-toi. » Enfin, c'est un peu ce rappel à l'ordre qu'on est tous capables de faire. Je pense que c'est une déresponsabilisation de penser que ce n'est pas notre faute, de se dire « Mais si moi j'avais quelqu'un, moi j'entends dire « Ah, mais si j'avais quelqu'un qui me poussait à faire ci ou qui me poussait à faire ça », mais c'est vous-même. Je veux dire, on ne peut pas passer notre temps à mettre notre responsabilité individuelle dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est votre vie, on n'en a qu'une. Donc si on compte toujours sur l'autre pour être meilleur ou pour faire les choses à notre place, on ne va pas aller très loin. Et je pense que Marcus et Harry, dans ce rapport-là, on peut aussi les voir comme une seule personne, une qui se responsabilise et l'autre qui n'a pas tellement envie.
Ces deux personnages, ils ont un rapport particulier avec la célébrité et le succès. D'ailleurs, Marcus dit que le succès est une maladie. Et le vôtre ?
Il dit que non, alors, le succès en général est une maladie, mais vous devez aller jusqu'au bout de l'explication parce que.
Je laisse le faire.
Il dit que c'est une maladie parce que en fait c'est un ce qui ça on est dans un rapport à l'autre et le regard des autres sur soi change. Du coup, on n'est plus nous-mêmes parce qu'on est scruté, donc on n'est plus capable d'être vraiment nous parce qu'on se comporte pas comme on voudrait se comporter pour nous. On se comporte comme on aimerait que les autres nous regardent ou selon ce qu'on imagine que les autres attendent de nous. Et donc, dès le moment où on commence à plus être soi, parce que quand on a un succès, c'est parce qu'on a, en général, hein, c'est parce qu'on a été soi. Et parce qu'on a été soi, on a fait quelque chose qui a fait le succès. Et voilà que le succès est là. Et que du coup, on se dit, donc maintenant, il faut que je me comporte différemment, puisque maintenant, j'ai du succès, que les gens me regardent. Et que donc, immanquablement, vous allez perdre une partie de votre authenticité, et si vous la perdez, bah les gens se détourneront de vous, puisque c'est pour ça qu'ils vous ont aimé, mais c'est plus comme ça que vous êtes. Donc forcément, c'est compliqué, hein, c'est dans le livre. Donc forcément, à un moment donné, le succès, comme n'importe quoi, c'est un échec, vous êtes obligé à un moment donné que ça retombe, peut-être pour redémarrer, rebondir, de toute façon c'est une courbe de Gauss, ça monte, ça descend, peut-être ça remontera, peut-être pas, et donc pour répondre à votre question, moi, je crois que je le vis assez bien parce que c'est quelque chose d'assez plein, dans le sens assez entier, qui n'est pas lié à moi, Joël, personnellement, mais qui est lié à mes livres. D'ailleurs, voilà, on se connaît grâce à des livres. Je pense que c'est un succès très différent d'un succès d'image d'un acteur ou d'un présentateur télé ou d'un musicien même où le rapport est quasiment direct. Vous me direz, un musicien, il enregistre un disque, mais en ce moment, surtout, on les voit sur scène. Donc c'est quelque chose de beaucoup moins brutal, je trouve, un succès de livre, parce que c'est pas vous, c'est le livre. Et il y a un biais. Moi, je suis amusé, parce que souvent, les gens... Et j'ai vu des acteurs ou des présentateurs télé, je les ai vus dans la rue se faire appeler par leur prénom tout de suite. Ce qui est normal, parce qu'il y a cette proximité, il y a cette immédiateté. Et moi, et ça m'amuse, on me dit souvent « monsieur ». Ça me vieillit beaucoup, mais surtout ça m'amuse parce que je me dis c'est marrant parce que il y a comme une barrière, et cette barrière, ben là, c'est le livre. C'est que en fait, on a aimé le livre, c'est pas directement moi.
C'est confortable,
ben c'est agréable parce que ça remet les choses en perspective, et que ça remet les choses en perspective, surtout quand j'écris. Ça me permet de revenir vraiment à des vraies questions sur ce que j'ai envie de faire moi et pas ce qu'on attend que je fasse, puisque c'est le livre. Et donc je dois être moi au service du livre et pas l'inverse. Je dois être au service du livre pour le nourrir le mieux possible, être le plus authentique possible, être fidèle à ce que je veux faire et surtout pas être dans un rapport à l'autre ou à mon lecteur, à mes lecteurs. En me demandant ce qu'ils attendent de moi, en même temps ce qui me plaît beaucoup, et je le vois, je vous ai pas vu pendant 4 longues années, mais ça me fait du bien de vous voir aussi, parce que, outre le plaisir, ça me rappelle à quel point j'ai la chance d'avoir un lectorat très large, et que je serais bien incapable de définir mon lecteur ou ma lectrice type, parce que c'est un panel très large, et qui se décline dans pas mal de pays dans le monde, donc ça me met à l'abri de ça, je crois.
De la même façon que Marcus Goldman, en fait, ne choisit pas ses histoires. Elle lui tombe dessus, vous aussi?
Oui, mais ça, c'est la question de l'inspiration. Alors oui, ça me tombe dessus, mais ça me tombe pas n'importe comment. Ce que je veux dire, c'est que ça vient bien de quelque part. Je sais pas très bien d'où, mais je pense que bien malin celui qui pourrait expliquer d'où l'inspiration, d'où est-ce qu'elle vient. Parce que quand vous imaginez quelque chose, ça vient bien de quelque part.
Vous faites dire à Marcus Goldman que écrire, c'est une réparation. Vous réparez?
Je sais pas. D'abord, je suis pas le porte-parole de mes personnages. Les personnages ne sont pas mon porte-parole. Chacun, il pense ce qu'il veut. Moi, j'écris parce que j'aime lire. Et j'aime lire parce que, tout simplement, quand je lis un livre, ben, je suis pas dans ma propre vie. Je suis pas dans mon salon ou dans le bus ou dans le train. Je suis dans un livre. Et je vous parlais au début, je vous parlais de cette appétence que j'ai de pouvoir imaginer qu'on pourrait vivre plusieurs vies dans la vie. Alors, c'est pas vrai dans la réalité, puisqu'on n'a qu'une seule vie et qu'elle est limitée à ce qu'on peut en faire. Mais c'est vrai quand on est lecteur, parce que quand on est lecteur, on peut, plus on lit de livres et plus on vit de vie, parce qu'à chaque fois qu'on lit un livre, on sort de sa vie pour en vivre une autre, plus forte, plus intrigante, plus passionnante. Et c'est ça que j'aime, et c'est pour ça que j'aime écrire. Et moi, je trouve que la lecture, si elle est une réparation, elle est une réparation parce qu'elle est vraiment la possibilité d'une parenthèse dans nos existences. Une parenthèse, on peut vivre quelque chose d'autre, de plus fort, de plus apaisé, de différent. Et moi, c'est le compliment qui me touche vraiment le plus, c'est quand on me dit, ben, grâce à votre livre, voilà, j'étais dans un moment de ma vie où j'étais pas au top, et puis pendant les quelques heures pendant lesquelles j'ai lu votre livre, j'ai pas pensé à ça. Et si la littérature peut déjà ça, je trouve que c'est pas mal.
Et est-ce que vous avez cette question quand vous écrivez de regretter un quotidien autre en permanence? Marcus Goldman, il a cette question quand même de se dire que c'est difficile d'être un écrivain ou de vivre avec un écrivain.
Ben, ce qui est difficile parfois, c'est de retomber, parce que c'est vrai que quand vous êtes lecteur, vous lisez votre livre. Quand vous êtes auteur du livre, c'est une expérience de lecture, mais encore plus forte parce que elle ne s'arrête jamais. Parce que quand vous êtes lecteur, en général, vous fermez votre livre parce que vous êtes arrivé ou vous faites une pause ou vous avez un rendez-vous, peu importe. Et puis bon, vous dites bon, je me demande ce qui se passe, mais vous n'avez pas forcément une obsession de le reprendre. Quand vous êtes auteur et que vous vous interrompez parce que vous avez un rendez-vous ou un train ou quelque chose à faire ou autre chose, peu importe, vous vous interrompez, vous dites « Mais attends, mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, cette vie, elle vous poursuit, ces personnages, cette intrigue, elle vous poursuit. Et du coup, quand ça s'arrête, c'est quand même une chute assez importante parce qu'il vous manque quelque chose. Vous retombez dans une réalité, au fond, un peu plate parce que c'est la routine et c'est bien aussi, mais c'est jamais aussi fort que toute la création et toute l'émulation qu'une idée de livre peut avoir.
Et là, vous avez peur d'être justement un peu en manque, puisque vous avez déclaré beaucoup dans la presse que les trois livres sont assez liés, et puis on le voit bien de toute façon. Mais alors du coup, maintenant ?
C'est bien de faire autre chose. Je ne peux pas servir la même soupe tout le temps, dans le sens où voilà, j'avais une belle aventure avec ce personnage-là, j'avais envie de la faire comme ça. J'aime bien les enquêtes, j'aime bien les intrigues. Je sais pourquoi je le fais et ça me plaît et ça m'emmène quelque part. Après, je me rends bien compte aussi que j'aspire à autre chose, que j'ai envie d'essayer d'autres choses et qu'il faut aussi que, et c'est ma responsabilité à un moment donné, de proposer autre chose et de prendre ce risque. Bah oui, le risque de vous déstabiliser un peu, de vous sortir de ce que vous connaissiez, mais si c'est ce qui me plaît, si c'est ce que j'ai envie de faire, il faut que j'ose le faire pour moi, c'est important.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous écriviez des choses plus romantiques encore que ce qu'elles le sont déjà, puisque quand même, dans vos livres, il y a des histoires d'amour.
Plus romantique, dans le vrai sens du mot, ça, je sais pas. Hein, le plus roman d'amour, purement amour, ça, je sais pas.
Mais vous êtes romantique, Joël Dicker, pour écrire ces histoires-là comme ça?
Moi, je suis romantique, mais très maladroit quand même. Je suis un romantique un peu maladroit. Je fais des trucs un peu pourris, mais je veux bien faire. Et puis après, ça foire toujours. Romantique touchant, vous voyez. Et je pourrais faire une comédie romantique, si vous voulez, basée sur mon expérience. Mais pas beaucoup plus que ça.
Mais quand même, c'est un ingrédient important dans votre littérature.
Bah oui, parce que c'est la tendresse, c'est la vraie tendresse. C'est la vraie révélation de soi, parce que quand on aime, on ne sait pas tellement pourquoi. Et c'est ça qui me plaît. C'est facile de pas... C'est facile. C'est beaucoup plus constructif de ne pas aimer quelque chose, parce que quand on n'aime pas, on sait pourquoi. Vous pouvez dire pourquoi vous n'aimez pas un livre, un film, un aliment, votre collègue. Vous pouvez l'expliquer immédiatement. Aimer quelque chose ou aimer quelqu'un, on peut pas vraiment le définir, on peut pas dire pourquoi. Et donc on fait toutes ces choses. Alors là, je peux parler de quelqu'un parce qu'on parle du romantisme. Et quand on aime et quand on met tous ces stratagèmes, on fait tout ça, on construit tout ça pour des sentiments qui au fond sont même pas tellement tangibles, on est même pas tellement capable de les expliquer. On peut dire ce qu'ils nous font parce que peut-être que on se sent mieux, ou on se sent plus fort, ou il nous porte, ou il nous emmène, ou on peut expliquer quelque chose autour de ça. Mais expliquer clairement pourquoi on aime, c'est toujours difficile. Et pourtant, on fait tout ça. Et c'est pour ça que je trouve beau, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose un peu irrationnel, mais vrai, parce que c'est quelque chose de l'instinct. On est persuadé, on est convaincu. Et l'instinct est quelque chose qui nous manque. On est plus très instinctif. On est beaucoup dans le contrôle, on est beaucoup dans l'attente, on est beaucoup, on le disait avant, dans la validation de l'autre. Mais l'instinct qui est cette force incroyable qu'on nous donne immédiatement quand on naît, pour ceux qui ont des enfants, quand votre enfant naît, il a un instinct incroyable. Hein, c'est comme ça qu'il survit, et puis il est capable de tout. Et puis quand on voit l'instinct des enfants, l'instinct des animaux aussi, les tortues de mer qui naissent sur une plage, et puis elles sortent de leur œuf, elles vont dans l'eau, et 20 ans après, elles reviennent sur la même plage, pondent leur œuf. C'est complètement incroyable. Et nous, on a ça en nous. Nous, on a ce même instinct. On a vraiment ce trait commun. On se perd, on a besoin de notre Google Maps, mais en dehors de ça, quand on parle de l'instinct, c'est ça, différemment, mais on a ce même truc en nous, et on l'utilise si mal, à pas se faire confiance, à pas croire en nous, à pas oser, à pas rêver. Et le premier jet de l'instinct, c'est le rêve, hein, parce que quand vous rêvez, pas quand vous dormez, hein, mais quand vous rêvez éveillé, quand vous avez un rêve, quelque chose qui vous habite, bah, ça c'est de l'instinct pur, c'est quelque chose en vous qui vous porte, qui vous emmène. Alors après, on réfléchit, on se dit, c'est pas raisonnable, c'est pas possible. Peut-être, parfois ça ne l'est pas, mais est-ce qu'à chaque fois que vous empêchez un rêve, est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons? Je sais pas, je crois pas.
Ce sera ma dernière question, Joël Dicker, et vous rêvez à quoi alors maintenant?
Là, comme ça, tout de suite. Je sais pas, on parlait de Polynésie avant avec Mathilde Molmola et je dois dire que je me suis vu tout d'un coup en Polynésie et ça m'a fait assez envie. Mais non, pour être moins concret et plus romantique, je rêve de sérénité. De sérénité dans le sens, vous savez, ce qu'on souhaite souvent, on se souhaite évidemment le bonheur et la santé et tous ces trucs-là qui sont soit un probable, soit intangible, soit pas directement entre nos mains. Ce qui est entre nos mains, c'est l'apaisement, être apaisé. C'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise au fond. Et donc, c'est un bon rêve.
Merci, Joël Dicker.
Merci, Sylvie. Merci à vous.